Musicopolis. Schubert, Vienne, 1827. Le dimanche, depuis 6 heures jusqu'à midi, on n'entend dans Vienne que le son des cloches et le bruit des équipages qui roulent dans toutes les directions pour se rendre à la messe. Mais le peuple se dédommage de la perte de sa matinée après son dîner, car depuis 3 heures jusqu'à 11, la ville se trouve en quelque sorte plongée dans une confusion de bombances et de mélodies. Partout où vous allez, le son des instruments frappe votre oreille. Dans toutes les familles de la classe moyenne, le premier objet qui attire vos regards est le pianoforte. Et à peine êtes-vous assis qu'on place devant vous un flacon de vin et une assiette de biscuits de Presbourg et qu'on dit à la demoiselle de la maison de vous jouer un air. Dans la musique que les Viennois placent leur orgueil. Aussi fait-elle le principal objet de l'éducation de leurs enfants, à qui on commence à en donner des leçons dès l'âge de 4 ou 5 ans. Et il n'est pas rare de les voir déjà musiciens à leur 6e année. Leur opéra est parfaitement bien monté, et la flûte enchantée et le Don Juan de Mozart, exécutés à Kärntner-Tor, forment un spectacle fort intéressant. Un nouvel opéra de Rossini, joué au théâtre de Kärntner-Tor, fera autant de sensations parmi ces bonnes gens que l'ouverture du Parlement à Londres. Rien n'égale l'ordre et la régularité qui règnent parmi le peuple viennois. 11 heures du soir sont à peine sonnées que la ville et les faubourgs sont plongés comme par magie dans le plus profond silence. Tout le monde doit être rendu chez soi et les chants et les instruments cessent de se faire entendre à la minute. On l'a compris avec le texte écrit en 1828 sous le titre « L'Autriche telle qu'elle est », les Viennois aiment la musique. À l'époque de Schubert, même s'il y a peu de concerts publics, au sens où on le comprend aujourd'hui, en dehors de l'opéra, les quelques sociétés de concerts semi-publics en offrent régulièrement à leurs membres. C'est ainsi que le 1er mars 1827, période de carême, les concerts spirituels donnent la symphonie Jupiter de Mozart et ils reviennent le 15 mars pour une symphonie de Vogler, des extraits du Davide Penitente de Mozart et la 9e symphonie de Beethoven. Le 15 mars 1827, Fritz von Hartmann, ami de Schubert, note dans son journal « Après le concert, je vais au café Le Château d'Eisenstadt où je reste seul un bon moment. À la fin, viennent Schaubert, Enderes, Gahy, Schubert et après minuit, Spaun. Le concert de l'après-midi et l'art en général formèrent la trame de la discussion. » Les amis savent sans doute que Beethoven est malade. Voici 2 mois qu'il va très mal. Il a 56 ans, il est complètement sourd depuis près de 10 ans et il est réputé pour son caractère difficile. Anton Schindler, un violoniste et ami de longue date qui lui sert de secrétaire, raconte qu'à cette époque, il a apporté à Beethoven une collection d'une 60aine de lieder de Schubert. Les deux musiciens ne se sont jamais rencontrés, Schubert trop timide pour se risquer à aborder cet homme qu'on dit si farouche.
So talk to somebody.
Anton Schindler montre donc les leaders de Schubert à Beethoven malade. Le grand maître, rapporte-t-il, qui ne connaissait auparavant que 5 leaders de Schubert, s'étonna de leur nombre et ne voulut pas croire que ces derniers en avaient déjà composé à cette époque plus de 500. Mais s'il s'étonna du nombre, la surprise la plus vive s'empara de lui quand il en découvrit le contenu. Pendant plusieurs jours, il ne put s'en séparer et il passait des heures chaque jour avec le monologue d'Iphigénie, les bornes de l'humanité, la toute-puissance, la jeune religieuse, les Müller-Lieders, Viola, etc. Avec un enthousiasme joyeux, il s'écria à plusieurs reprises « Vraiment, en ce Schubert habite une étincelle divine. Si j'avais eu ce poème, je l'aurais aussi mis en musique », disait-il des textes dont il ne pouvait assez louer le sujet, le contenu, et l'interprétation originale qu'en avait donné Schubert. Il prophétisait que celui-ci ferait encore beaucoup de sensations dans le monde. Et dans le même moment, il regrettait de ne pas l'avoir connu plus tôt. Anton Schindler, le secrétaire de Beethoven, invite Schubert et son ami Anselm Hüttenbrenner à venir rencontrer Beethoven malade. Mais celui-ci est trop épuisé pour pouvoir soutenir une conversation. Et la belle rencontre que j'aurais aimé pouvoir vous raconter n'est pas advenue. Quelques jours plus tard, le 26 mars, Beethoven meurt après un jour de coma. Le 29 a lieu son enterrement, qui fait figure d'événement à Vienne. Quelques 10 000 personnes y assistent et il existe des gravures qui montrent la foule réunie à cette occasion. Les amis de Schubert consignent ce moment dans leurs journaux. Bauernfeld écrit « Le 26 est mort Beethoven à l'âge de 56 ans ». Aujourd'hui a eu lieu son enterrement. J'y étais avec Schubert. Hans Schütz a lu une oraison funèbre de Grillparzer devant le cimetière de Währing. Et Zammler rapporte quelques jours plus tard « Sur les deux côtés, des rangées de porte-torches ». Parmi eux, Schubert. Tous étaient vêtus de noir, avec des gants de la même couleur et un crêpe flottant au bras gauche, excepté les porte-torches qui, par compensation, s'étaient fixées des gerbes de lys puisque les torches étaient déjà voilées de crêpe. Franz von Hartmann écrit « Avec Fritz et Haas, assistés à l'enterrement de Beethoven, il dure très longtemps. Il y a là une foule de spectateurs. » Ensuite, à la maison avec Andres, Schubert, Schaubert, Bauernfeld. Puis, je vais au café Le Château d'Eisenstadt, où avec Schaubert, Schubert et Schwind, nous restons jusqu'à 1h du matin. Naturellement, nous parlons seulement de Beethoven et des honneurs bien mérités qui furent rendus à sa mémoire aujourd'hui. La maladie et la mort de Beethoven ont attiré à Vienne quelques-uns de ses vieux amis, comme Johann Nepomuk Hummel, qui est alors maître de chapelle à Weimar. Hummel est l'un des porte-torches qui accompagne le cercueil de Beethoven. C'est au cours de ce séjour qu'il est présenté à Schubert, dans la maison d'un riche magnat hongrois. La rencontre est racontée par son élève, le pianiste Ferdinand Hiller, qui l'accompagne. Nous avons mangé là plusieurs fois en compagnie de Schubert, cet homme jeune et paisible, et de son chanteur préféré, le ténor Vogel. Schubert avait peu de technique, Vogel avait peu de voix. Mais tous deux avaient tant de vie et d'expression, ils allaient si parfaitement de pair dans leur exécution, qu'il aurait été impossible de rendre plus clairement, en même temps que de transfigurer davantage ces merveilleuses compositions. On ne pensait plus ni au clavier, ni au chant. C'était comme si la musique n'avait plus aucun besoin de soutien matériel, comme si les mélodies se découvraient, telles des visions, aux oreilles hyper spiritualisées. Je n'ose pas parler de mon émotion et de mon enthousiasme, mais mon maître Hummel, qui avait cependant déjà derrière lui un demi-siècle de musique, était si profondément touché que les larmes perlaient sur ses joues. Le jeune pianiste Ferdinand Hiller, après avoir entendu Schubert jouer lors d'une soirée, lui rend visite dans sa chambre, haut perché et peu meublée. « J'ai encore présent dans le souvenir, raconte-t-il, le pupitre à écrire assez large, sur lequel reposaient quelques manuscrits fraîchement écrits. « Vous composez beaucoup, dis-je au jeune maître. « J'écris chaque matin quelques heures, répliqua-t-il d'un ton des plus modestes. « Lorsque j'ai terminé un morceau, j'en commence un autre aussitôt. » Plusieurs amis de Schubert confirment la régularité de son emploi du temps. Le matin pour la composition et l'étude des maîtres anciens. L'après-midi pour les amis, les plaisirs artistiques et les promenades dans les beaux environs de Vienne, pour lesquels, nous dit Bauernfeld, il ne manquait jamais d'une allègre compagnie. Le sentiment de bien-être qui s'exprimait au travers de son caractère, allié à une chaleureuse malice, faisait en sorte que se joignait toujours à lui un grand choix d'amis et de jeunes camarades. En ce mois d'avril 1827, les choses vont bien pour Schubert, qui ne fait pourtant rien pour se mettre en avant. Il ne se passe pas un mois sans qu'une œuvre de lui paraisse chez l'un ou l'autre éditeur de Vienne, des danses pour piano ou des lieder, et son nom apparaît de plus en plus souvent dans les programmes de concerts, souvent pour des lieder ou des chœurs, mais en avril, c'est son Nocturne de 1824 qui est donné par le violoniste Ignaz Schuppanzigh, le créateur des quatuors de Beethoven, dans le cadre de ses concerts d'abonnement. L'octuor, comme le septuor de Beethoven qui lui a servi de modèle, va être très apprécié des Viennois. Le 16 avril, la critique est élogieuse. « mouvement Allegro Vivace de l'octueur en fa majeur de Franz Schubert, dans une version enregistrée en 1955 avec David Oistrakh. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Philippe Thibault pour le mixage.